Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture.
Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui avec un grand plaisir Pascal Terracol. Pascal est enseignant-chercheur et je vais commencer par lui demander à propos de ce domaine de l'architecture qui est le sien, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'il est aussi docteur en géographie, si j'ai bien compris. Mais je voudrais d'abord vous demander, Pascal, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur? En quoi ça consiste? C'est à Paris d'Aldecène, je crois?
Oui. Donc, effectivement, je suis professeur dans un des 20 établissements d'enseignement de l'architecture dans ce pays. Et l'articulation enseignant-chercheur, elle vient d'une réforme qui date de 2018, en fait. Mais au-delà de ça, c'est l'articulation véritablement entre la pédagogie et la recherche, en fait. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que, évidemment, la pédagogie évolue, elle se nourrit des questions et des problématiques qui sont évoquées par les laboratoires, en fait. Et ce dialogue permet normalement de former des architectes dans un contexte qui évolue. Voilà, c'est pour répondre à votre question.
D'accord. Vu de la fenêtre, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un là-dedans. C'est l'entreprise, non? Il me semble que dans notre pays, on a beaucoup de mal à connecter la recherche et l'entreprise. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai que nous avons mis en place une action, une chaire architecture et intelligence. Et effectivement, nous essayons de trianguler entre les doctorants, le pôle académique que nous sommes et les acteurs de terrain industriels que peuvent être effectivement des partenaires en fait. Mais il y a également un autre volet dans ce contexte-là que sont les doctorats en contrat CIFRE qui reposent à peu près sur la même situation en fait. Hein. Voilà. Mais j'en dirai quelque chose si vous voulez.
Nous avons quelquefois l'occasion d'en parler, même de les illustrer à travers la Fondation Palladio, qui attribue les bourses et dans lesquelles on voit effectivement un nombre non négligeable de ces contrats CIFRE.
Alors, c'est important.
Je voudrais vous poser plusieurs questions. Évidemment, votre champ d'intervention et de compétences est très, très étendu. On va forcément faire des choix. Le premier, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui dans le développement des technologies, et particulièrement de l'intelligence artificielle, du deep learning, etc., etc., quelque chose qui peut-être pourrait bouleverser, voire entrer en collision, pour tout dire, avec la conception architecturale traditionnelle. Et je n'ai pas de discussion avec des amis architectes, le sentiment que cette prise de conscience soit très grande aujourd'hui. Est-ce que vous pensez cela ou autrement?
Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'illustrer mon propos, en fait, en le situant justement dans le contexte de la chaire architecture et intelligence que nous avons mis en place, en fait. Et cette chaire, elle s'inscrit dans la continuité immédiate d'un séminaire de Master 1 d'initiation à la recherche qu'on a intitulé véritablement « Intelligence artificielle, recherche prospective sur les impacts des sciences cognitives pour la conception du projet architectural ». Et dans ce contexte-là, depuis 2017, nous avons formé sur ces problématiques une trentaine d'étudiants via un enseignement prospectif sur les outils et les implications de l'intelligence artificielle qui convoque en particulier les aspects de la pratique, de l'enseignement et de la recherche en architecture, en fait. Et c'est un acquis, et depuis 4 ans, en fait, je peux vous livrer cette anecdote, c'est que certains de nos étudiants, après avoir passé leur diplôme, sont partis de l'école, ont commencé une vie professionnelle, et certains reviennent vers notre laboratoire EFCO, en fait, et me sollicitent en tant que directeur de recherche pour encadrer leur thèse, en fait. C'est un travail de maturation qui s'opère, en fait. Et donc aujourd'hui, nous avons, pour l'année à venir, en fait, un petit vivier de doctorants, et nous montons en puissance sur ces questions, en articulant les problématiques de la spatialisation des données grâce aux algorithmes de l'IA, et cela à diverses échelles, hein, de l'échelle des capteurs à juste aux questions de l'urbanité, enfin de la dimension urbaine. Alors pour ce qui est de la conception enfin, adossée aux outils d'intelligence artificielle, ce qu'on nomme conception augmentée en fait, ou prédictive, ça décrit un ensemble de dispositifs d'aide à la conception et d'analyse des données du bâtiment. En fait, hein. Je peux en citer, je peux parler en particulier du neuro-architecture, en fait, ce que les anglo-saxons appellent BCI, Brain Computer Interface. Et ce sont en fait un dispositif qui convoque ou qui déplace, qui va déplacer la notion d'interface homme-machine, en fait. Hein. Ça se réalise en particulier grâce à un réseau de capteurs qui analyse en temps réel à la fréquence de 70 Hz l'activité cérébrale du cortex, en fait, et complété avec l'analyse du eye tracking en anglais. Pour le dire en français, je pourrais dire que le système sait ce que l'architecte regarde, il comprend et il anticipe ses intentions. Et si vous ajoutez à ce dispositif la connaissance des goûts et des émotions de l'architecte, la connaissance des ratios économiques, des solutions techniques et constructives qu'il déploie, et cet ensemble étant associé aux aspects législatifs et réglementaires qui existent, ben, vous avez là une assez bonne définition de ce que seront les outils dans un proche avenir de ce que je nomme comme étant le BIM augmenté, en fait. Hein.
C'est une échéance quelques années ?
Pardon ?
C'est à quelle échéance ? Quelques années ?
Alors oui, on peut anticiper, enfin, on peut décrire ça, c'est-à-dire que, comment dire, il y a en 2017, j'avais mis en place en fait j'avais participé à l'édition d'un livre blanc sur ce qu'on appelait à l'époque l'interopérabilité avec l'association Media Construct. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il aura fallu en fait 14, enfin une bonne dizaine d'années pour que le BIM apparaisse soit une réalité dans les agences d'architecture. Si on reprend ce décalage, à ce moment-là, on pourrait dire que il faudra attendre 2030 en fait, hein, quelque chose comme ça, pour que les outils d'intelligence artificielle soient une réalité dans les agences. Moi, je pense que ça peut aller un petit peu plus vite en fait. Hein.
Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Le philosophe regretté Bernard Stiegler. Disait comment est-ce qu'on garde la main, quoi, et comment est-ce qu'on évite qu'on connaisse au plan intellectuel ce que le prolétariat a connu par rapport à l'artisanat au 19e siècle et à la fin du 19e siècle. Donc comment garder la main?
Disons que c'est vrai que c'est un sujet vu depuis les agences, ça nourrit à la fois une défiance, des fantasmes de frayeur. Et puis c'est parfois en dessous des radars des praticiens, ça c'est vrai, mais en même temps c'est inéluctable en fait. Hein. Et je pense que c'est notre métier, nous en tant que chercheurs, de savoir anticiper ces évolutions, de savoir les imaginer, de travailler ces sujets et d'identifier l'émergence des solutions technologiques. Pour nous, il s'agit là véritablement de matériaux pédagogiques et de problématiques de recherche, hein, que nous livrons évidemment à la disposition de nos doctorants, ça c'est clair.
Oui, vous éclairez le chemin un peu plus loin que notre vision habituelle. C'est absolument passionnant et du coup, je m'aperçois que par ma faute, je vous fais déborder de l'horaire et je vous demande pardon. Je ne poserai peut-être pas toutes les questions que vous avez imaginées. Je voudrais qu'on parle en deuxième lieu quand même, que vous nous donniez votre éclairage et votre point de vue sur les smart cities.
Oui, alors les smart cities ou la ville intelligente en fait en français. Oui. Il y a une ontologie qui a été décrite par Marshall McLuhan il y a de nombreuses années, hein, le village global en fait. Et il n'avait pas complètement tort en fait. Hein, et tout ça, ça avait été un peu abandonné et puis c'est en train d'être revisité sous divers aspects en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? D'une part, il y a la question des flux en fait, c'est-à-dire qui sont complexes. Hein. Il y a la question de la voiture autonome, il y a la question de la gestion de l'énergie, de la réduction de l'emprise environnementale des villes en fait. Tout ça, ça constitue un enjeu majeur de notre milieu urbain à venir en fait. Hein. Il y a également l'aspect sécuritaire. Alors c'est toujours pareil, en fait, ça aussi c'est source de fantasmes et de défiance, mais en même temps, il y a aussi l'autre versant. On est parfois bien content d'avoir ces dispositifs, en fait. Hein. C'est assez complexe, en fait. Pour ce qui est, par contre, la question centrale, c'est peut-être la question d'ubiquité dans l'espace public et la question de l'individu dans l'espace public. Hein. Alors, je peux vous livrer une anecdote, en fait. La question, c'est est-ce que le citoyen dans la ville connectée va être plus heureux, en fait hein. Je peux vous livrer cette anecdote. Maintenant, on est dans une phase Covid, mais il y a quelques mois, devant un établissement d'enseignement supérieur, il y avait un petit groupe de jeunes adultes, en fait, mixtes. Et ils étaient en train d'attendre certainement l'ouverture de cet établissement. Et ils ne se regardaient pas, ils étaient tous en train de regarder leur smartphone, en fait. Donc, la question de l'altérité, elle est posée. Hein, véritablement, c'est une vraie question, ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus l'autre, en fait. Hein. Pour ce qui est de l'espace public, est-ce que les architectes vont savoir dessiner aujourd'hui l'équivalent de la Piazza del Fiori à Rome, en fait, connecté, en étant à la fois un espace public agréable et en même temps moderne, en fait, moderne entre guillemets, mais voilà, c'est des questions qui sont posées aux architectes. Il y a la question de la complexité des flux, en fait. Parce qu'il y a les vélos électriques, il y a plein de nouveaux flux et usagers qu'il va falloir sécuriser très certainement ou organiser. Et puis il y a également, il va y avoir une nouvelle typologie d'équipements qui vont apparaître en fait. Je pense aux arrêts au parc, aux vertiports en fait. Il y a des opérateurs qui sont en train de se poser ces questions-là, qui sont celles de la mobilité aérienne en fait, en rapprochant des dispositifs proches des centres urbains. Et dans ce contexte-là, je peux vous dire que nous allons prochainement diffuser une offre de thèse en contrat CIFRE avec un industriel qui a deux prototypes sur ces questions-là. Donc pour accueillir un doctorant en architecture, et donc plutôt un architecte, pour aborder cette question qui est complexe. En fait.
C'est par exemple, est-ce que la livraison par drone, par exemple, ça rentre dans ce cadre-là?
Alors oui, on peut imaginer ça. Les freins à ces questions-là, elles sont d'ordre réglementaire, et puis d'ordre, on va dire, comment sécuriser ce genre de choses. La question en particulier pour les drones, c'est de savoir sécuriser un protocole d'engins qui vont voler au-dessus d'une densité d'usagers. Et il faut absolument les sécuriser, donc il faut sécuriser le tunnel aérien, véritablement, la donnée. C'est ça la question qui est posée. Et puis, évidemment, tout ça, il faut que ce soit agréé par un dispositif réglementaire, très certainement européen, d'ailleurs.
Pour terminer, il nous reste 4 minutes à peu près. Est-ce qu'on peut zoomer un peu alors de la ville sur le bâtiment augmenté, et puis s'il nous reste encore quelques instants, du bâtiment vers le matériau ou vers le mode constructif?
Oui, absolument. Bah, pour ce qui est du logement intelligent, parce que notre propos, c'est un peu celui-là, le logement intelligent va accueillir effectivement un ensemble de dispositifs. Et là encore, l'objet, c'est d'améliorer l'existence et les aménités des usagers, en fait, hein, et donc dans leur quotidien. Et la réponse de l'architecture à ces usagers passe par l'usage bien construit, des objets connectés, de la mise en communication des interfaces du quotidien en particulier, mais encore une fois certainement de la sécurité en fait, de l'adaptation également des logements aux personnes âgées en fait, ce qui leur permettra de rester à leur domicile avant d'aller dans un EHPAD en fait. Hein. Sur ces questions-là, j'encadre à l'heure actuelle depuis 2 ans une doctorante en contrat CIFRE avec un opérateur du logement social, c'est un bailleur social de l'Est parisien, et elle est au boulot. Voilà. Elle travaille sur ces questions-là, absolument.
Très bien. Et matériaux et modes constructifs?
Alors, la question des matériaux et de la mise en œuvre du chantier, on va dire. Hein. Ouais. Il y a plusieurs acteurs et plusieurs aspects qui apparaissent. Il y a la question de la fabrication numérique, en particulier. Il y a également la question des matériaux connectés, des bétons intelligents, c'est-à-dire ce sont des matériaux qui intègrent des capteurs et qui permettent d'informer les utilisateurs dans le temps long de la vie de l'ouvrage, en fait, hein, des niveaux de contraintes qui sont à l'œuvre, en fait, et de pouvoir quantifier et qualifier le vieillissement des structures en particulier. Et puis il y a également la question de l'automatisation des procédures de réemploi de ces matériaux sur les structures existantes. Et puis il y a également tout un autre volet qui concerne la sécurité des chantiers en fait et la minoration des risques et des sinistres qui devrait normalement, je pense, intéresser les acteurs de la construction. Et à ce sujet-là, ben, nous sommes, enfin, je peux faire cette annonce que nous avons des étudiants qui ont travaillé ces sujets-là, et certains d'entre eux sont tout à fait aptes à s'engager justement dans un doctorat avec un contrat CIF, peut-être avec l'un de ces acteurs-là, pourquoi pas.
Y compris le monde de l'assurance, parce que l'assurance construction est de façon endémique déficitaire depuis, je crois qu'elle existe, et donc toute solution qui permettrait de limiter ce déficit, alors évidemment on pense bien sûr à tous les défauts de construction, mais la sinistralité, etc., mais il y a aussi le chantier, il y a aussi les vols de chantier, etc., on va vous parler tout ça.
Oui.
Tout ça est une phase assez peu évoquée, pas très visible, mais en montant, elle est assez considérable quand même.
C'est clair. Nous avons au moins deux étudiants qui ont consacré leur mémoire sur ces questions-là précisément, en fait, véritablement. Et effectivement, ce sont des sujets, absolument.
Pascal, je vous remercie, c'était très très intéressant. Je pense que nous reprendrons, si vous l'acceptez, une autre séance dans quelques temps, parce que je pense à des tas de sujets sur lesquels je ne vous ai pas interrogé. Par exemple, juste pour en citer un et donner des appétits aux auditeurs, la blockchain. La blockchain, je suppose, est dans l'ensemble de la chaîne, sans jeu de mots, de construction, quelque chose qui peut changer assez profondément les relations, les contrats, les connaissances. Moi, je sais que dans l'expérience personnelle, je trouve que, comment dirais-je, la connaissance de l'historique tout au long de la vie d'un bâtiment est, disons, perfectible pour rester pour toi.
C'est clair, c'est un véritable sujet et ça convoque effectivement la question des certifications des protocoles en particulier. Et il y a plein de dimensions effectivement qui sont périphériques à cette question-là, à cette technologie. Avec grand plaisir, Bernard.
Très bien, merci infiniment et à bientôt, Pascal.
À bientôt, bonne journée, merci à vous. Merci pour votre entretien.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.